efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler du burn-out, l'épuisement non pas professionnel, celui qui contraint à s'arrêter de travailler quand aller au bureau rend malade et fait mal, non. Nous parlons de l'épuisement parental et précisément maternel. Lorsqu'à la vue de son bébé, de son enfant, le premier instinct n'est pas de l'étreindre, mais plutôt de fuir. Alors c'est sûr, on est loin, hein, très loin, des clichés du plus beau jour de sa vie, l'arrivée du bébé, la femme devient mère et être mère. C'est ce qui se dit, c'est ce que l'on nous apprend, c'est forcément épanouissant, d'autant plus que beaucoup de femmes en France ont la possibilité de décider quand elles le deviendront et combien de fois. Alors l'enfant choisi, est-ce que c'est le bonheur garanti ? Eh bien pas forcément, pour des femmes soumises à de nombreuses injonctions, multiplication des tâches, multiplication des attentes, travailler, gérer la maison, l'éducation, séduire, surmenage, culpabilité, et elles craquent, on va le voir, sans le plus souvent oser le dire. Burnout maternel au cœur de votre livre qui vient de paraître. Etty Buzyn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste. Vous avez donc signé cet ouvrage « Quand les mères craquent » aux éditions Le Duc, on va le voir, avec comme problématique centrale « Trouver la juste place de mère ». Et tout à l'heure, en deuxième partie de Priorité Santé, nous serons en ligne du Sénégal avec Mamadou Mbodj, docteur en psychologie clinique et psychopathologie à Dakar.
RFI.
Etty Buzyn, on parle donc de ce surmenage maternel, mais ce burn-out, selon le terme consacré, ce n'est pas uniquement parce que les femmes en font trop, c'est aussi souvent parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix d'en faire autant.
Exact. D'autant que le burn-out, il est lié à une problématique importante, à savoir la charge mentale. C'est-à-dire que, pour résumer, la femme est celle qui décide, celle qui prend des dispositions, qui organise. Et c'est extrêmement pesant parce que c'est une tâche qui n'est pas partageable avec le conjoint ou avec qui que ce soit d'autre. Et c'est ce qui est pour elle, infiniment lourd à porter et écrasant. C'est de pas pouvoir le partager. Voilà, il faut vraiment qu'elle anticipe absolument tout ce qui est à venir. Et je peux même dire qu'au travail, elle a dans la tête tout ce qu'elle doit faire ailleurs, c'est-à-dire à la maison. C'est vraiment comme une charge à perpétuité. Enfin, ça n'arrête jamais.
Il y a une phrase que vous écrivez dans votre livre, je la cite. Si la libération de la femme a bien eu lieu, la libération de la mère, elle, se fait attendre. Etty Buzyn, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'aliénation maternelle ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Évidemment, c'est difficile à accepter parce qu'il y a un côté comme ça négatif et compte tenu de ce qu'apporte l'enfant dans une famille, j'ai envie de dire ça fait un peu tâche. Mais l'aliénation maternelle, elle existe, mais les femmes en parlent, les mamans en parlent peu parce qu'elles en ont honte. À savoir que d'emblée, elles sont censées pouvoir faire face.
Elles n'ont pas le choix.
Absolument. Elles sont censées pouvoir tenir tout ça de front, et avec le travail en général, en plus, puisqu'elles ont actuellement, elles ont toutes ou le plus souvent des activités, une activité professionnelle, donc elles sont à la tâche. Et c'est très amusant, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai donné une conférence en province il y a quelques jours, et il y avait pour la journée de la femme, et il y avait trois personnes d'origine différente et de religions différentes qui faisaient des scénettes. Et en particulier, il y avait une dame qui était d'origine musulmane, enfin de religion musulmane, et qui racontait la chose suivante. Elle était au travail, elle avait beaucoup lutté pour travailler, pour trouver des... pour faire une carrière, et donc elle progressait, et elle était au travail, et puis toc, elle tombait enceinte. Alors elle partait pour accoucher, et que voyait-elle sur l'entrée de la clinique, de de l'hôpital, vous voyez, salle de travail. Et elle disait, au fond, je passais d'un travail à un autre.
Ça n'arrête jamais.
Et ça s'est passé 4 fois de suite. Vous voyez, elle a eu 4 enfants. Elle passait de son travail, enfin, de son activité professionnelle à la salle de travail. Autrement dit, c'est un travail aussi de porter des enfants, de les mettre au monde et de les assumer.
On disait justement cette difficulté de reconnaître les problèmes, hein, parce qu'on perçoit au fil des pages de votre livre, finalement, ce burn-out. Il faut dire, oser dire que vous n'en pouvez plus, parce que la culpabilité, elle est toujours là, elle attend toujours la mère, les femmes, pour dire finalement, je ne peux pas dire aujourd'hui que je n'y arrive pas, parce que ça voudrait dire que je ne suis pas à la hauteur.
C'est ça, tout à fait. Il y a toujours la honte là derrière et la culpabilité, mais le problème c'est de savoir à qui le dire. Hein. Alors vous avez déjà pas mal de mères célibataires, ce qui est pas évident non plus, puisqu'elles assument seules et qu'elles n'ont personne pour partager. Autant que faire se peut, mais l'important c'est quand même de pouvoir en parler et échanger à ce propos et d'essayer de trouver des gens, alors soit d'autres mères qui à mon avis vivent la même chose, mais tout le monde étant dans le silence et dans la réserve, c'est compliqué, mais il faut s'ouvrir aux autres et le fait de voir que beaucoup ont le même problème, je trouve que ça soutient quand même, voilà.
Et déjà repérer les signes, hein, on va justement reprendre un petit peu depuis le début. Dire des femmes qui peuvent être fatiguées, chez elles un petit peu isolées, quand est-ce qu'elles vont reconnaître justement ce burn-out ? Quels sont les symptômes, Etty Buzyn ?
C'est une fatigue colossale, c'est le fait de n'avoir plus goût à rien, d'être dans une, j'ai presque envie de dire, dans des automatismes, vous voyez ? Elles font ce qu'il faut, on peut dire, parce qu'il n'y a pas de choix, il faut bien que les enfants soient quand même gérés, mais en même temps, c'est sans affect, et avec une sorte de grande distance. Et l'enfant le sent. Alors, il faut savoir que l'enfant réagit aussi lorsqu'il sent sa mère dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il manifeste quelque chose de son angoisse, parce qu'il est angoissé. Et du coup, il en rajoute. C'est-à-dire qu'il est agité, il est demandeur, il ne dort plus, il est vraiment dans une demande incessante.
Ça fait un cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux, voilà, tout à fait. Et pour aller un petit peu plus loin, lorsque les mamans sortent de cet état qu'elles viennent consulter, l'enfant va tout de suite mieux, curieusement. Elles viennent pour l'enfant, pour dire qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant à se calmer, à être, voilà, à être raisonnable, à accepter les contraintes. Et dès qu'on parle ensemble, l'enfant, c'est résolu. C'est
pour lui. Comme symptôme, comme signe, vous disiez une forme d'enfermement, d'isolement. Est-ce qu'il peut y avoir aussi, de l'autre côté, des cris, une exaspération beaucoup plus rapide ?
De quel côté voulez-vous parler ?
De la maman, une sorte d'explosion un petit peu injustifiée, hors sujet.
Elle passe de l'un à l'autre, tout simplement. C'est-à-dire, il y a des moments d'exaspération où elle n'en peut plus, j'ai presque envie de dire, c'est à son insu, enfin, c'est plus fort qu'elle. Et l'enfant le sent très bien, c'est souvent injustifié d'ailleurs pour une broutille, hein. Et puis, comme elle se culpabilise, après elle se referme à nouveau, elle se déprime, parce qu'évidemment, elle s'en veut d'avoir, pas avoir su gérer la situation. Enfin, c'est difficile à maîtriser tout ça. Oui.
On a énuméré ces différents signes. Est-ce qu'il y a des moments où véritablement il faut s'inquiéter, Etty Buzyn ?
Ah ben oui, parce que les signes de la dépression, ils sont là. Hein. Le fait de plus pouvoir dormir, de je ne sais pas, ça peut être même une anorexie, pouvoir manger, d'être triste, de ne rien investir, pas même ses enfants, d'avoir qu'une envie, c'est de s'en débarrasser ou de mettre des distances entre eux. Je pense que... Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai énuméré, c'est qu'il faut plusieurs signes. Hein. Un seul ne suffit pas. Hein, c'est pas parce qu'on est fatigué qu'on est en burn-out.
C'est fréquent d'être fatigué vraiment... après l'arrivée d'un bébé.
Absolument.
C'est même normal.
Ou même quand il y en...
Un ou plusieurs.
Bien davantage. Absolument, parce qu'il faut gérer les autres, et quel que soit leur âge, ils ont des demandes différentes, et donc une adaptation différente de la maman au stade où en sont les enfants. Donc les oublis, il faut vraiment plusieurs signes par rapport à ce que j'ai tout à l'heure énuméré, qui est dans le livre, hein, et voilà, au moins trois des sonnettes d'alarme.
Avec par exemple ces problèmes de concentration, plus savoir où on a mis ses affaires, oublier des choses, toutes ces choses qui disent... Je ne suis pas simplement fatiguée, mais ça ne va pas bien.
Oui, et puis d'avoir tout le temps envie de dormir et de s'isoler aussi. Ça, c'est important, enfin, de se dire, mais j'ai qu'une idée, c'est être seule, enfin. Trouver vraiment une sorte de, comment dire, de répit, hein, en s'isolant.
Alors, pour expliquer justement cela, ce n'est pas forcément une démarche volontaire de la part de ces mamans. Et Tibuzin, on peut dire que ces mères, elles font face à une pression absolument énorme.
Ah oui, oui, parce qu'elles sont censées être... Alors, elles sont mères, mais elles sont éducatrices aussi. Ça, c'est le problème. Autrement dit, elles sont le bras, j'ai envie de dire, de le prolongement de l'éducation nationale, pour parler d'enfants plus grands. Et même des plus petits, parce que dès la crèche, dès la maternelle, on demande aux enfants d'être conformes, d'accepter les contraintes, d'être
une
policiers,
exigence de
d'être,
performance.
Tout à fait. Enfin, d'être conforme à, j'ai envie de dire, un enfant idéal. Autrement dit, vous avez... La maman doit être une mère idéal d'un enfant qu'elle rend idéal. Ça fait beaucoup, je veux dire, vraiment. C'est une pression permanente et presque un challenge pour elle.
Alors, ces pressions, là, on sent la psychanalyste qui refait surface dans votre livre, parce que vous dites aussi que certains sentiments du passé, profondément enfouis chez la jeune mère, peuvent ressortir justement dans ce moment de forte pression. Elles sont donc aussi inégales face à ce burn-out maternel en fonction de leur histoire personnelle.
Mais vous l'avez dit tout à fait, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'elles ont vécu, en particulier enfants, soit elles reproduiront, soit elles feront l'inverse, mais souvent elles reproduisent sans s'en rendre compte, à leur insu, et vraiment ça peut être ravageur, d'autant qu'elles s'en veulent beaucoup. Moi, j'ai vu une maman une fois qui donnait une tape à un bébé, parce que j'ai beaucoup travaillé en pédiatrie néonatale et en réanimation, et qui donnait une tape à un bébé de quelques jours, évidemment, c'est une infirmière qui l'avait signalé, je l'ai vue et elle m'a dit, mais je me suis toujours dit que jamais je maltraiterais mon enfant comme j'ai été maltraitée moi-même, et pourtant c'était plus fort qu'elle. Bon, ça s'est arrangé par la suite, mais enfin c'était un signal de quelque chose qui tout à coup revenait à son insu et la faisait agir malgré elle, parce qu'elle aimait son bébé, c'est clair.
Elle est rattrapée par sa propre histoire.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Alors, des problèmes d'enfance non réglés, il n'y a pas que ça, il y a aussi justement cette pression sociale, et on peut le dire aussi des fois pression familiale, les autres générations, le conjoint qui en demande beaucoup, voire qui en demande beaucoup trop.
Alors, vous introduisez le conjoint, c'est une bonne idée parce que il est temps de le responsabiliser. Je dis dans le livre, et c'est, je me suis appuyée sur des études, que les hommes deviennent matures plus tard, c'est-à-dire qu'ils gardent une immaturité assez longtemps, et pour cause. Alors, je vais avancer une idée qui peut paraître un peu, par moment, un peu excessive, mais ce que je voulais signaler, c'est qu'un au moment de l'Édipe, vous savez, quand le petit garçon est amoureux de sa maman et la petite fille de son papa, le petit garçon, il est amoureux de sa maman, ok, et puis il en sort, et qui trouve-t-il plus tard? Une femme, c'est-à-dire qu'il change pas de sexe, n'est-ce pas? Il est amoureux d'une autre femme, pas sa mère, mais avec laquelle il reproduit quand même quelque chose. La petite fille, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'elle est amoureuse de sa maman au début de la vie, bien sûr, enfin proche, dans la fusion, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pour être amoureuse, il faut qu'elle change de sexe. Autrement dit, ça demande une certaine adaptation, vous voyez? Elle doit être, elle n'est plus... Enfin, sauf pour les homosexuels, mais en général, elle doit changer de sexe, être amoureuse d'un homme. Et ça la fait mûrir. Voilà. Alors que, qu'est-ce qui se passe pour le garçon? Ben, il continue à penser que...
La perpétuation de son amour de bébé.
Voilà. Et que la compagne, eh bien, après tout, elle peut jouer le rôle de la maman qu'il a quittée. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça existe à des degrés divers.
Alors, qu'est-ce que peut faire la femme en situation de burn-out? On va reparler justement plus tard du rôle du conjoint. Quand ces signes sont repérés, auprès de qui trouver de l'aide, Etty Buzin, pour ces mamans qui n'en peuvent plus?
Déjà autour de soi, si c'est possible. Enfin, s'il y a des gens, soit dans la famille, soit dans les amis. Mais lorsque vraiment ça prend des proportions où l'enfant va mal, parce que c'est ça le signal quelque part. Tant que la maman va mal, elle le subit, elle se dit qu'elle va en sortir, elle se donne des raisons.
Mais c'est quand ce l'enfant va mal, c'est ce que vous constatez, vous, justement, en consultation.
Ouais.
On vient vous voir. Non pas pour un mal-être maternel, mais pour un mal-être de l'enfant.
Absolument. Et l'enfant, c'est l'alibi, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on consulte pour l'enfant, parce que lui manifeste. Et je dis que c'est le premier thérapeute de la maman. C'est lui qui la soigne. Il l'amène chez le thérapeute. On pense que c'est la maman qui amène l'enfant. Non, c'est l'inverse pour moi. Et dès que la maman commence à parler d'elle, même les bébés, ils s'endorment illico dans les bras de la mère, comme soulagés. Et il n'y a plus de problème, ils ne pleurent plus, vous voyez, ils fonctionnent.
Mais on va encore reprendre le terme de culpabilité, parce que ces mères qui vont consulter pour leur enfant, elles prennent le temps pour leur enfant qu'elles n'ont pas pris pour elles-mêmes.
Vous avez raison. Mais c'est l'enfant qui lui fournit, tout à fait.
C'est lui qui l'aide justement dans cette démarche de s'en sortir. Mais il peut y avoir aussi d'autres personnes, des relais au sein de la famille, mais au-delà, dans le corps médical.
Oui, il y a les psychologues, il y a le pédiatre aussi à qui elle peut parler, le médecin de famille. Enfin, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui peuvent en tout cas repérer et puis lui dire la marche à suivre ou comment elle peut sortir de là. Enfin.
Justement, diagnostiquer ce burn-out, c'est important non seulement pour la santé, on l'a entendu, des enfants, pour le bien-être de la famille, peut-être surtout pour le bien-être de la maman, la première concernée. Et justement, cette responsabilité, cette sur-responsabilité, la charge mentale, finalement, ces mamans, aujourd'hui, elles n'ont plus droit à la faiblesse. Avant, on décrivait volontiers les femmes comme des petites choses fragiles, même si elles ne l'ont jamais vraiment été au cours de l'histoire. Mais elles avaient cette dimension des femmes qui s'évanouissaient, qui prenaient des selles, enfin, qui étaient très délicates. Aujourd'hui, elles doivent tout faire. Et tout réussir.
Oui, mais elles l'ont voulu aussi. Alors, évidemment, j'en fais partie. C'est pas une critique. Elles l'ont voulu. Elles portent le pantalon. Elles font les métiers d'hommes de plus en plus, hein, dans tous les métiers, que ce soit dans l'armée, pilote de ligne, enfin n'importe où, et même dans les métiers qui étaient avant des métiers masculins, maintenant ce sont les femmes qui prennent le relais et qui repoussent les hommes à l'extérieur. Enfin, voilà. Et voilà.
Mais elles étaient bonnes mères, elles devaient l'être, elles n'avaient pas le choix. Et en plus, il y a justement cette dimension de la libération de la femme par le biais de la contraception. Ces enfants, elles les ont choisis et on a envie des fois de croire, elles doivent la plupart du temps les assumer.
Alors c'est là où il y a vraiment un malentendu. Parce que sous prétexte qu'elles l'ont voulu, c'est doublement culpabilisant. Je l'ai désiré, je l'ai eu au moment dont j'avais décidé. Vous savez, je vois souvent des jeunes femmes qui consultent pour arriver à décider à quel moment elles vont le faire. J'en ai une en ce moment qui est en train de construire sa carrière. Mais vraiment, c'est d'un compliqué inouï, tellement il y a de paramètres, vous voyez, à résoudre avant de faire ce bébé. Alors ce bébé, il est en effet, alors je dirais pas désiré, il est décidé. Le désir, il venait dans le temps, il venait parce que vous savez, le désir, c'est quelque chose justement qu'on ne décide pas, qui vient malgré soi, en tout cas en termes psychanalytiques. Hein, le bébé décidé, ben non, il résout pas tout justement. Pas parce qu'on l'a décidé qu'on est prêt à l'assumer totalement.
Même si certains conjoints ne vont pas hésiter à le dire, ce bébé, tu l'as voulu maintenant. Faut faire face.
Oui, enfin, ça se fait à deux quand même, hein. Faut pas oublier non plus, c'est un peu facile, hein.
Oui. On va rester en votre compagnie, Etty Buzyn, toujours pour feuilleter les pages de votre livre « Quand les mères craquent » publié aux éditions Le Duc. Mais on va tout de suite prendre en ligne une auditrice de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et cette auditrice, c'est Pauline, en ligne du Niger de Niamey. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Vous avez un témoignage à apporter aux auditeurs et aux auditrices de Priorité Santé, on vous écoute.
Oui, c'est à propos de comment se réorganiser pour avoir un peu de temps pour soi quand on élève seul un enfant.
Vous êtes maman célibataire?
Oui, voilà, j'élève seule ma fille de 4 ans.
Et comment ça se passe? Vous arrivez à vous organiser? Comment ça se passe à la maison?
En fait, au début, ça va être difficile, mais maintenant, ça se passe mieux parce que comme la petite a grandi, donc j'ai essayé de refaire tout mon programme un peu autour de ses activités à elle, à commencer par l'école. Comme elle commence très tôt le matin à l'école, donc moi, j'arrive très tôt au bureau aussi, et donc j'ai le temps de partir aussi un peu plus tôt du bureau. Et de gérer le quotidien à la maison. L'autre chose aussi, c'est que maintenant qu'elle est un peu plus grande, elle a des activités extrascolaires qui ont lieu l'après-midi. Et moi, ça me permet de prendre ce temps aussi pour faire du sport ou...
Vous retrouvez un petit peu. Mais comment ça s'est passé au début, justement, quand elle était toute petite et que vous étiez seule à vous en occuper? Est-ce que des fois, vous avez ressenti ce qu'on décrivait tout à l'heure avec Etty Buzyn, un petit peu ce sentiment d'avoir la tête sous l'eau?
Ah oui, bien sûr. Surtout que je suis plutôt une mère. En fait, je suis plutôt partie sur l'option de je fais tout moi-même. et je délègue le moins possible. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je continue à faire le maximum. Hein. Je l'accompagne à l'école, je la récupère moi-même. Si je suis coincée, je le fais faire. Mais mon option première, c'est toujours de tout faire moi-même. Donc, effectivement, c'était difficile et j'ai eu ce sentiment-là.
Et pourquoi, justement, vous ne voulez pas déléguer à quelqu'un de votre famille? Vous dites que vous voulez tout faire vous-même. Vous sentiriez coupable de demander à quelqu'un de vous aider?
En fait, il y a des moments où il y a quelqu'un de ma famille, il y a des moments où il y a un parent qui est là, et à ce moment, moi, je n'ai pas du tout de problème à déléguer. Je crois que c'est un problème à déléguer quand c'est quelqu'un qui est étranger à la famille, en fait.
Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, justement, en travaillant, en ayant cette petite fille, que vous réussissez à bien organiser votre temps sans, justement, être menacée par ce burn-out, ce sentiment d'être dépassée par les événements et votre charge de maman?
Non, mais une chose que j'ai retenue, je crois, c'est que peut-être dans une de vos émissions que quelqu'un disait, il faut un moment apprendre à se dire qu'on ne pourra pas tout faire et accepter que tout soit, ne soit pas parfait. Donc, effectivement, si je veux rester dans la logique, je veux tout faire et que tout soit bien fait, il y a ce risque de burn-out et il y a un moment où on se dit on ne va pas faire le bain et puis deux ou trois jours passent. Et là, ce que je me dis, aujourd'hui, si on n'a pas pu faire telle ou telle chose, si je n'ai pas pu l'amener à une activité, il y a des moments où on rate des activités. Mais j'essaie de prendre ça avec un peu de distance et de me dire ce qui compte, c'est quand même le moment que je passe avec elle et puis l'idée de faire des choses ensemble. Si on n'a pas pu le faire cette fois, on va le faire une autre fois.
Merci beaucoup, Pauline, pour ce témoignage. On l'entend, hein, Etty Buzyn. Pauline a compris que personne n'est parfait, surtout pas une maman. Et en tout cas, il ne faut surtout pas courir après cette perfection.
Absolument, je dis toujours que chaque maman bricole en fait, on n'a pas des cours de maternité, enfin en général, on ne sait pas ce qui nous attend vraiment, du moins pour le premier, après on est branché. Je crois que
Pauline,
oui, je pense qu'elle a acquis une certaine sagesse, c'est-à-dire à savoir que elle délègue quand elle peut, quand c'est pas possible autrement, mais en même temps elle a accepté de ne pas être parfaite partout. Et j'ai tendance à dire qu'il faut accepter d'être une mère imparfaite et que toutes les mères le sont. Et c'est cette espèce de course à la perfection qui jette les mères dans le burn-out en fait.
Justement, éviter en disant qu'il faut se poser des limites, même s'il y a tout un tas, vous le soulignez dans votre livre, Etty Buzyn, tout un tas de clichés de cette réussite maternelle préfabriquée, avec en particulier un vecteur énorme de ces clichés, c'est Internet, super maman sur les réseaux sociaux. Je vais encore vous citer, c'est à la page 109 de votre livre. « Ce bonheur dégoulinant est un idéal impossible à attendre de toutes les mères, et les vraies mères de la vraie vie le savent ». Ça veut dire, en fait, c'est une mère de publicité, de messages publicitaires, une mère qui n'existe pas.
Ben, vous avez deux registres, le registre de la publicité, qui alors vraiment nous enfonce, je dis nous parce que je suis mère et grand-mère, mais vous avez aussi celui des vedettes, enfin, qui se promènent avec leur ventre et à tout venant. Non, enfin, qui sont parfaitement maquillées, qui ont l'impression qu'elles gèrent tout, qu'elles maîtrisent tout. Et ça, je pense que pour la mère banale, enfin celle que vous êtes, que j'ai été, bah c'est très culpabilisant. Je dis comment elles font, quoi. Elles font.
On se réveille, on a une sale tête le matin, on est normal.
Voilà.
Surtout après avoir.
On est normal, on n'a pas envie d'affronter ce qui nous attend. Le CDI à perpétuité, quel rôle de maternelle. Et finalement, tout ça, c'est quoi? C'est de la poudre aux yeux. Mais qui contribue à culpabiliser les mamans, j'ai envie de dire, imparfaites, c'est-à-dire tout le monde, toutes les mères. Voilà.
Etty Buzyn, vous restez avec nous. Hein. On va se retrouver dans quelques minutes, toujours pour parler du burn-out maternel. Quand les mères craquent, on se laisse le temps d'une chanson avec Kat Janine et ce titre « Mama ».
Eu e mamãe calatine, como se tangu baba mzazi alituacha, haufungi macho. Peke, peke ya peke yako mama, unatugumania.
Janine, hein, ce titre de 2000, Maman en Swahili. On vous retrouve, Etty Buzyn, psychologue clinicienne, psychanalyste. En votre compagnie, on continue de parler du burn-out maternel auquel vous avez consacré cet ouvrage qui s'appelle « Quand les mères craquent », publié chez Le Duc. On a évoqué les signes, des pistes pour expliquer ce surmenage maternel qui peut mettre en danger la relation mère-enfant. Il ne faut pas le sous-estimer, hein. Ça peut être vraiment grave pour la santé de la maman. Quand on parle de dépression, perte du sommeil, des fois il peut vraiment y avoir derrière la nécessité d'une véritable prise en charge médicale.
Mais non seulement une prise en charge, une hospitalisation, vous voulez dire. Et ça met toute la famille dans l'embarras, bien évidemment. C'est bien pour ça qu'il faut pouvoir repérer les signes avant et éviter. Et je dis que ce livre, il est fait pour justement éviter, comprendre les signes, les repérer et pouvoir agir, en tout cas se faire aider avant que le burn-out ne s'installe.
Il peut y avoir des facteurs de risque. Tout à l'heure on parlait de l'histoire de la maman, mais il peut y avoir aussi lors de l'arrivée du bébé des conditions d'accouchement, des choses très simples à repérer, Etty Buzyn, comme par exemple la prématurité. Là c'est véritablement un facteur de stress.
Alors là je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai travaillé en réanimation néonatale, je le disais peut-être au début, en pédiatrie néonatale, avec des bébés en grande difficulté, hein, respiratoire ou autre, et qui parfois passaient un an et demi ou deux ans en réanimation, hein. Voilà. Et là, ça met les mamans dans un état vraiment. D'abord, la culpabilité de ne pas avoir fait un enfant viable, complètement, voilà. Et le risque, alors là, vraiment d'une dépression massive, hein, vraiment.
Avec un problème peut-être aussi d'attachement avec ce bébé et beaucoup de choses qui peuvent suivre.
Non, parce que sur ce plan-là, on a fait beaucoup d'efforts et quand j'y étais, en tout cas, les mamans et les familles entières entraient en réanimation, y compris les frères et sœurs, ce qui fait qu'il y avait quand même une affectivité de familiale, vous voyez, qui entourait ce bébé et qui était partagée. C'était aidant pour la maman elle aussi. Donc là, sur ce plan-là, les services hospitaliers ont fait beaucoup d'efforts.
Alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres facteurs, par exemple des facteurs sociologiques? On pense particulièrement au niveau d'études, à la catégorie professionnelle, les endroits finalement où c'est plus difficile, des milieux au sein desquels c'est plus difficile de devenir maman qu'au sein d'autres milieux.
Oui, alors là, c'est une façon d'aborder les choses de façon politique, je veux dire, parce que oui, il est vrai qu'il y a des mamans qui peuvent même pas se poser la question, tout simplement. Je veux dire, il faut œuvrer, et elles n'ont même pas le temps de se demander si elles, à quel stade elles en sont. C'est là où est le problème. Et des fois, alors vous voyez, le danger, c'est la maltraitance, parce qu'à un moment donné, elles sont tellement mal elles-mêmes qu'elles ne gèrent plus rien, elles ne maîtrisent plus ni leur affectivité, ni leur façon de fonctionner ou d'être vis-à-vis de leurs enfants. Et ça peut aller très très loin. Il faut le comprendre comme ça et ne pas les accabler, mais les aider, les soutenir.
C'est là, quand vous dites le titre de votre livre, « Quand les mères craquent », des enfants, vous le disiez, ces mères viennent consulter surtout pour les enfants. Justement, quels signes chez leurs enfants les inquiètent, leur font dire « là, il va falloir faire quelque chose parce que mon enfant ne va pas bien ». Elles n'ont pas encore pris conscience, on l'a dit, que c'était peut-être elles qui n'allaient pas bien. Oui. Mais comment manifeste cet enfant, Etibuzin, quand sa maman craque ?
Il y a plusieurs, plusieurs signes, plusieurs symptômes. Il y a les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, c'est-à-dire ne plus accepter de se nourrir, l'agitation, l'agressivité, enfin tout ça, c'est un panel dans lequel on peut tout à fait repérer des difficultés qu'a l'enfant lui-même ou qu'il éprouve dans sa relation à sa mère. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un enfant aille mal, franchement, s'il reçoit l'amour dont qu'il est en droit d'attendre. Et puis les soins, il n'y a aucune raison qu'il aille mal. Donc il s'agit bien d'autre chose. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas, vous les mamans, à consulter pour votre enfant. Ça n'est pas grave, même si c'est pour lui, parce que il va très vite, il va être question de vous aussi, et l'enfant ira mieux d'emblée. Il ne faut pas hésiter. Je trouve que parfois les pédiatres perdent un peu de temps, vous voyez, sur ce plan-là.
Et surtout que aller consulter pour un enfant, c'est pas forcément s'engager dans quelque chose sur le long terme. Ça
pas
peut
du tout.
Être réglé assez rapidement.
Pas du tout. Mais il importe quand même de pouvoir suivre la maman quelque temps. Il faut qu'elle accepte ça. Et pourquoi pas le papa, parce qu'on oublie les hommes, ils sont quand même partie prenante, ou justement ils ne sont pas suffisamment. Et à ce moment-là, il faut aussi les sensibiliser et leur expliquer à quel point on a besoin de leur aide, leur conjoint, enfin leur compagne, mais le psy aussi, il a besoin que le père prenne aussi sa part de ce qui se passe.
Et s'investisse.
Et soit conscient de ce qui se passe.
Et on se retrouve, Etibuzin, on va d'abord faire un petit détour par le Sénégal. Et précisément Dakar, hein, où on vous retrouve, Mamadou Mbodj, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes docteur en psychologie clinique, psychopathologie à Dakar, donc vous exercez. Cet épuisement maternel, est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu l'occasion de constater aussi lors de vos consultations au Sénégal?
Oui, alors c'est quelque chose qu'on constate, même si le concept de burn-out est très récent. Son apparition est très récente dans nos sociétés. Et c'est très récent dans le langage et dans les diagnostics médicaux, même si la situation décrite par le burn-out a toujours existé.
Mamadou Mbodj, est-ce que c'est forcément lié au nombre d'enfants?
Non, parce que si vous voulez, lorsque des mères qui craquent viennent consulter, il s'agit aussi bien de femmes qui sont professionnellement actives que de femmes au foyer.
Tout à fait.
Ce qui permet de dire que l'état ou la situation d'épuisement physique et psychique de ces femmes ne peut pas être systématiquement imputable ni au cumul travail et famille, ni uniquement à la famille, d'accord?
Oui.
Alors, vu de l'extérieur, on pourrait penser que les femmes africaines n'ont pas les mêmes causes d'épuisement physique et psychique, quand bien même elles seraient écartelées entre travail et maison, comme les femmes en Occident. Étant donné la présence de membres de la famille élargie qui vivent dans la concession et qui peuvent parfois aider, mais également le recours quasi généralisé à du personnel de maison. Et pourtant, ces femmes sont à tout instant écartelées entre obligations familiales, domestiques, conjugales, obligations socio-familiales, notamment avec la belle-famille, et les obligations professionnelles pour celles qui travaillent, pour plaire à la belle-famille et au mari.
Avec justement cette belle famille et toujours ce satané sentiment de culpabilité, Mamadou Mbodj.
Absolument. Et certaines d'entre elles vous disent même que n'eussent été les absences répétées et les infidélités du mari au second plan, la menace de la polygamie au premier plan et les rapports houleux avec la belle famille, elles n'auraient aucun problème à gérer le reste. Ni le travail, ni la maison, ni cumul travail-maison. Mais que c'est surtout les rapports houleux avec la belle famille et cette épée de Damoclès en permanence suspendue au-dessus de leur tête, de voir un jour le mari leur apporter ce qu'on appelle vulgairement une petite sœur, c'est-à-dire
une seconde épouse. Et justement, voilà. Comment est-ce qu'elles réagissent, ces mères surmenées, ces mères épuisées, lorsque vous mettez un nom sur la cause de leur souffrance, Mamadou Mbodj?
Ben, écoutez, elles ont du mal parce que souvent, c'est des figures persécutives traditionnelles qui sont invoquées. jusqu'à ce qu'on leur explique qu'elles sont souvent victimes de ce que moi j'appelle une forme de dissonance cognitive, dans la mesure où elles travaillent, par exemple celles qui travaillent, elles travaillent et veulent à la fois fonctionner et agir socialement comme si elles ne travaillaient pas. Je m'explique. Bien des femmes sénégalaises, si vous voulez, qui travaillent, semblent paradoxalement vouloir avoir vis-à-vis de leur travail, de leur foyer, de leur famille, de leur belle-famille et des multiples obligations familiales, la même disponibilité de temps et d'énergie que les femmes qui ne travaillent pas. Ce qui n'est pas possible, si vous voulez. Ce qui n'est pas possible. Donc, les fragilités, les moments de mal-être, les moments où elles ne parviennent plus à assumer en tant que mère, et les moments où elles ont l'impression qu'elles tiennent plus face au mari, face à leurs responsabilités vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du mari, vis-à-vis de la belle-famille, souvent elles ont tendance à évoquer, à mettre tous ces troubles psychosomatiques ou même cette dépression naissante sur le compte de ou d'un maraboutage ou de figures persécutrices, jusqu'à ce que, à la suite d'une consultation chez un médecin, elles atterrissent dans un énième temps chez un psychologue qui parvient à mettre le doigt là-dessus.
Et une fois que le doigt est mis, justement, qu'on écarte cette espèce, on va dire, d'envoûtement ou de relation un petit peu complexe avec des esprits, est-ce qu'elles comprennent qu'il y a des moyens concrets de s'en sortir, Mamadou Mbodj ?
Oui. Alors, nous leur offrons généralement, quand on les reçoit, c'est d'avoir un travail d'écoute avec beaucoup d'empathie, en leur offrant un espace, ce que je pourrais appeler un temps de liberté de pensée, de parole, de liberté d'expression, de plaintes diverses qu'elles ne pouvaient pas dire ailleurs, un espace et une écoute où, pour une fois, on ne se contentera pas de leur dire de s'en remettre à Dieu, ni de prendre sur elles en encaissant stoïquement les coups du sort, une écoute qui leur plaît de prendre du recul, de comprendre qu'il n'y a pas de fatalité, qu'elles pourraient envisager peut-être d'effectuer d'indispensables remaniements dans leur vie, si vous voulez, revoir leur rythme de vie, leur emploi du temps, revoir leurs habitudes, leurs loisirs, voir justement avec le mari ce déficit de communication et de dialogue, voir un peu l'ordre de priorité dans les multiples engagements et obligations qu'elles ont, si vous voulez, mais également on attire leur attention sur le fait qu'elles ont également intérêt à évaluer en toute liberté ce que j'appelle le coût de telles initiatives, des initiatives qu'elles auront à prendre, des changements qu'elles auront à effectuer ou des ruptures dans leur mode de vie et dans les rapports avec l'environnement. Alors, beaucoup d'entre elles arrivent parfois à vous avouer qu'elles estiment ne pas encore être dans les conditions nécessaires pour agir, prendre de vraies mesures, mais que le seul fait d'avoir pu en parler et d'avoir réalisé qu'elles ne sont pas folles, c'était déjà beaucoup pour elles.
Elles ont déjà déposé un petit peu de leur charge. Merci beaucoup, voilà, Mamadou Mbodj. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie clinique et psychopathologie à Dakar. Et Tibuzin, Mamadou Mbodj le soulignait, ce fameux déficit de communication avec les pères, c'est une véritable clé, justement, pour essayer de dépasser cette situation de surmenage.
Oui, parce que ce qui se passe, c'est que les pères, en général, se chargent de ce qui est plus plaisant, on va dire ça comme ça. Moins les charges quotidiennes et bon. Mais par exemple, sortir les enfants, aller au sport avec eux.
Le divertissement.
Tout ce qui est divertissement, jeu. Ils sont tout à fait au niveau, tout simplement aussi, parce qu'ils ont gardé une part d'immaturité en eux qui fait qu'ils éprouvent un réel plaisir. Mais enfin, ça ne décharge pas nécessairement la maman de tout le reste. Voilà. Ce que je voulais dire à propos de
ce qu'on vient d'entendre, Mamadou Mbodj.
Alors, je vais être un petit peu réductrice, mais il me semble que là-bas, il y a un excès de famille qui fait que ça pèse beaucoup sur les mères, puisqu'elles ont, vis-à-vis des belles mamans, tout le groupe social, elles ont des obligations, et ça me paraît être une assez lourde à porter, alors que chez nous, c'est l'inverse. On n'a pas ce recours, un déficit total. Et c'est ce qui nous sépare, je trouve, sur le plan des résolutions de ce type de problème.
Justement, la confusion entre l'homme qui dit « je t'aide, j'ai lu une histoire », mais c'est bien ça, vous le soulignez, c'est page 119, ces mères, elles ne veulent pas seulement quelqu'un qui les aide, mais quelqu'un qui prenne des initiatives. C'est une grosse différence, décider et pas simplement faire, comme dans un couple, quand un père dit « je vais te faire ça ».
Oui, mais enfin, c'est bon, c'est le vœu de tout, c'est le vœu de toutes les mères et toutes les femmes. Malheureusement, je trouve que, curieusement, les hommes ne voient pas ce que nous voyons. Et je pense que nous avons un insight, une capacité à ressentir les choses sur le plan émotionnel, sur le plan de, même de l'anticipation qu'eux n'ont pas. Alors ça, c'est presque ce que j'ai envie de dire, c'est leur équipement qui est comme ça. Alors c'est très difficile. Je crois que si on veut leur dire, va faire les courses, bah, faites-leur, à ce moment-là, il faut leur faire la liste. Parce que sinon, ils vous ramèneront n'importe quoi.
Tous les hommes ne sont pas forcément comme ça non plus.
Non, mais pas vraiment intéressés. Non, moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai un gendre qui est complètement l'inverse et une fille qui en fait pas lourd. Donc, je sais de quoi je parle. Mais non, mais c'est vrai. Mais globalement, quand même, je crois qu'il faut être patiente. Il faut les aider à les mobiliser, mais en leur donnant aussi un substrat, en préparant les choses. Enfin, je vais pas dire les conseiller, mais leur montrant comment. Vous avez déjà beaucoup vu d'hommes nettoyant le congélateur ou le four.
J'ai promis chez moi de pas parler de ma vie privée, mais je vous dirai que oui.
Voilà, d'accord. Eh bien, c'est pas par hasard, c'est que ça ne les gêne pas, voilà, tout simplement. Voilà. Et beaucoup de choses ne les gênent pas, voilà.
Et on a pas mal parlé de ces bébés, hein, mais malgré tout, ça ne s'arrête pas aux premières années, parce qu'au contraire, vous le soulignez bien, à chaque nouvelle étape de l'enfant, la mère doit s'adapter, et apparemment, une maman qui peut materner un bébé très bien peut se retrouver complètement dépassée, par exemple, au moment de l'adolescence.
Ah oui, c'est même très fréquent. Encore que, dans notre pratique, nous avons repéré, et ça fait le sujet de pas mal de colloques, que le comportement d'un enfant vers 3 ans, 3-4 ans, que nous appelons la petite adolescence, se répète 10 ans après. C'est-à-dire que vous retrouvez dans l'adolescent, vous retrouvez le petit enfant que vous avez connu. Dans l'opposition, dans cette façon de vouloir tout faire tout seul, de vouloir s'opposer, enfin voilà. J'ai presque envie de dire aux jeunes mamans qu'il faut résoudre les problèmes avant, quand il en est encore temps, dans la petite adolescence, c'est-à-dire quand l'enfant est petit, pour mettre des limites, pour poser les choses de façon à ce que l'enfant se construise de façon harmonieuse, en tout cas en acceptant, si vous voulez, de le cadre que la famille propose, et qui est à la fois un cadre, c'est vrai, affectif, mais aussi de sécurité. C'est la sécurité de base. Donc, il est très important que tout ça se passe au début de l'existence de l'enfant. Et je tiens quand même à conseiller aux mamans qui seraient dans cette situation de consulter le plus tôt possible. Ça les aidera pour plus tard, voilà. Mais pour plus tard aussi.
Parce que ce n'est pas un problème du tout, on l'a compris, à prendre à la légère.
Absolument pas.
Il y va de sa santé, de la santé de toute la famille.
Oui. Et puis aussi de l'équilibre de l'enfant plus tard, parce que sinon il peut se marginaliser, et si les parents sont dépassés, et là on est devant des problèmes massifs.
Merci beaucoup, merci Etty Buzyn de nous avoir éclairé pour que les mères prennent conscience et acceptent aussi leurs limites, hein, c'est important. L'éducation n'est pas une science, et on peut être mère sans être comblée totalement, on peut être juste une mère.
Imparfaite, j'ajoute.
Imparfaite. Pour en savoir plus sur ce surmenage, burn-out maternel, hein, je renvoie les auditeurs de Priorité Santé à votre ouvrage « Quand les mères craquent », publié aux éditions Le Duc. Merci beaucoup. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Aujourd'hui, on va parler d'une légumineuse, ce sont les lentilles. Alors d'abord, petite explication, un petit topo, c'est quoi exactement les lentilles ?
Alors, les lentilles, c'est une plante herbacée qui produit des fruits en forme de gousse aplatie contenant deux graines et ayant une forme de disque un peu bombé. Alors on retrouve principalement 5 familles de lentilles. Alors il y a des sous-familles, mais je vais aller dans les principales familles. La lentille brune, la rouge, la verte, la rose, la blonde et la noire qu'on appelle beluga. Alors les lentilles appartiennent à une famille d'aliments, on appelle les légumineuses, qui sont une famille botanique qui vont produire des fruits en forme de gousse. Et ce qui est important, c'est des fruits en forme de gousse récoltés desséchés. Alors cette famille, elle compte aussi les fèves, les haricots secs, les pois séchés ou encore le soja. Alors pourquoi j'ai insisté sur le fait de récolter séché, c'est qu'il y a une deuxième famille va produire des fruits en forme de gousse, mais qui vont être récoltés verts et qui du coup vont plus être classés dans les légumineuses mais dans les légumes, parce que les propriétés biochimiques auront changé. On les connaît très bien, c'est le petit pois par exemple ou les haricots verts.
Alors quelles sont les caractéristiques nutritionnelles des légumineuses ?
Alors la consommation de légumineuses aujourd'hui est de est plus en plus importante, elle augmente, et les recommandations internationales de la plupart des organisations de nutrition ont tendance à dire qu'il faut encore l'augmenter. Alors ceci parce que elles ont plusieurs caractéristiques qui sont très intéressantes. D'abord, un apport intéressant en protéines de bonne qualité, avec un profil qui se complète bien avec celui des céréales pour avoir un peu tous les acides aminés qu'on a besoin. Un apport intéressant en fibres et en sucre complexe, l'amidon, une quantité de micronutriments, minéraux et vitamines du groupe D qui est non négligeable par rapport à d'autres familles, et enfin des glucides, c'est-à-dire les sucres, qui présentent un index glycémique. Alors l'index glycémique, c'est la capacité de l'aliment à faire monter la glycémie, qui est plutôt faible, et ce qui veut dire que ça va être plutôt intéressant pour l'organisme. Alors pour beaucoup de personnes qui ne mangent pas de viande ou qui veulent avoir un peu un substitut, les légumineuses sont aujourd'hui une source de substitution de protéines animales par les protéines végétales, qui est très intéressante.
Alors justement, quelles sont les caractéristiques précises de ces lentilles au sein de la famille des légumineuses?
Alors, elles sont un peu à la mode, j'allais dire, parce qu'elles se démarquent par une caractéristique, c'est qu'elles sont riches en protéines de bonne qualité, avec 25 grammes de protéines pour 100 grammes de lentilles crues, ce qui est très important, ça fait 25%. Elles sont aussi riches en fibres, elles contiennent une quantité intéressante de fer et une forte quantité d'antioxydants. Donc tout ça, ça fait que c'est très intéressant. Et là aussi, cette quantité de protéines et de protéines de bonne qualité fait que c'est un bon substitut à la viande pour ces questions de protéines. Et alors là, de manière plus globale, la lentille, mais comme les autres légumineuses, depuis 10 ans, on voit aussi beaucoup de travaux de recherche sont en train de montrer, alors rien n'est totalement fait, mais il y a des faisceaux très intéressants, que la consommation de légumineuses a tendance à augmenter la prévention et le contrôle du diabète de type 2, la diminution globale des maladies cardiovasculaires, à condition bien sûr que cette consommation s'accompagne d'une alimentation équilibrée, comme toujours, et c'est intéressant aussi pour réguler la satiété, en jouant un rôle donc sur le surpoids et l'obésité.
Alors est-ce qu'il y a par contre des points plutôt négatifs dans la consommation de ces légumineuses?
Alors non, Caroline. Alors souvent quand on parle de légumineuses, le problème c'est que les gens disent ça ballonne, on a des flatulences, c'est pas très agréable. Alors la lentille, justement dans toute cette famille, avec sa conjonction un peu de forte teneur en protéines et fibres, se digère très bien. Alors par contre, c'est vrai que si on revient aux légumineuses de manière plus importante, il y a un truc quand même qui est sain pour les autres légumineuses, pour éviter ces effets un peu dérangeants, on va dire, c'est de les faire bien tremper avant de les préparer et de changer l'eau de trempage. Et du coup, là, les effets sur la digestion sont bien meilleurs. Et du coup, que ce soit la lentille ou les autres, on peut les manger avec un intérêt certain et pas trop de problèmes de digestion.
Je vous dirais même que mon secret, c'est de jeter la première eau de cuisson. On les fait bouillir, on porte à ébullition, il y a tout ce petit dépôt dessus. On jette l'eau et on remet dans l'eau bouillante.
Voilà, c'est parfait. C'est exactement ça.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et fabrique Priorité Santé. À Cétoussa Maquet, Ophélie Lassen et Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, eh bien, nous irons à Bordeaux. Bordeaux à l'occasion de la conférence de l'AFRAVI, Alliance francophone des acteurs de santé contre le VIH et les affections virales chroniques. Pour joindre notre émission, bien sûr, notre numéro, c'est le 33 84 22 75 75. Notre page Facebook également. Et pour réécouter Priorité Santé, rfi.fr, rubrique émission. À demain.
C'était Priorité Santé, avec Sounou Assurance, qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.